We welcome you to the General Relief Society meeting.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je suis Julie Bibeck, présidente générale de la Société de secours. Nous saluons la présence de notre prophète bien-aimé Thomas Manson, de Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence, et de Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, qui fera un discours ce soir. Nous saluons aussi la présence de Russell M. Nelson et de T. Todd Christofferson du Collège des 12 apôtres et de Bruce C. Hafen des 70. Ces frères servent comme consultants pour guider la présidence générale de la Société de secours. Nous sommes aussi heureuses d'avoir avec nous ce soir Hélène S. Dalton, Marie N. Cook et Anne M. Dibb, de la présidence générale des jeunes filles, ainsi que Cheryl C. Land, Margaret S. Liefert et Vicky F. Matsumori de la présidence générale de la primaire. Ce sont des femmes d'envergure et de compétences. Nous leur devons beaucoup pour l'immense travail qu'elles accomplissent pour insuffler la foi à la génération montante. Sylvia H. Allred et Barbara Thompson, mes conseillères et amies, sages et compétentes, se trouvent aussi sur l'estrade, ainsi que des membres du bureau général de la Société de secours qui apportent un grand soutien à notre travail. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de sœurs de la Société de secours de pieux d'Alpine et de Highland en Utah, sous la direction de Mary Lee Webb avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur va maintenant chanter « Ô viens, toi roi des rois ». Après ce chant, Anne Farnworth du bureau général de la Société de secours fera la prière d'ouverture.
Our beloved Father in heaven,
notre cher Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être réunis entre sœurs de la Société de secours du monde entier. Nous sommes tellement reconnaissantes de la merveilleuse présidente de la Société de secours, Sœur Beck et ses conseillères. Nous sommes tellement reconnaissantes d'avoir un prophète vivant avec nous aujourd'hui, président Thomas Esmanson et ses conseillers. Pour nous sommes reconnaissantes, Père, pour le Conseil des douze, et nous te demandons de les bénir. Nous te demandons de nous accorder, te demandons d'accorder ton esprit à ceux qui vont parler ce soir, pour que le Saint-Esprit leur permette de dire ce que nous avons besoin d'entendre. Nous te remercions pour ce merveilleux cœur. Nous te demandons, Père, que ce qu'ils chantent puisse fortifier notre témoignage. Nous te remercions pour les missionnaires partout dans le monde et nous te prions de les bénir et de les soutenir ainsi que leurs familles. Nous te demandons, Père, de bénir et de soutenir leurs familles. Nous te remercions, Père, pour l'évangile de Jésus-Christ et pour le rétablissement par le prophète Joseph Smith. Nous aimons ton Fils, Jésus-Christ, et nous prions pour que ton esprit soit avec nous ce soir. Aide-nous, Père, à pouvoir prendre la décision de mener une meilleure vie. Au nom de Jésus-Christ, amen.
It will now be my pleasure.
Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. À la fin de mon discours, le chœur chantera « Seigneur, je te suivrai ». Après ce chant, Sylvia H. Allred, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, nous adressera la parole. Elle sera suivie de Sœur Barbara Thompson, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Après quoi, le chœur et l'assemblée chanteront « Vivons ce bonheur ». Mes chères sœurs, que vous êtes belles à voir, et comme nous sommes reconnaissantes d'être avec vous, nous vous aimons et nous vous estimons énormément. En tant que présidente générale de la Société de secours, nous avons eu l'occasion au cours de l'année passée de vous rendre visite partout dans le monde. Nous nous sommes entretenus avec vous en Allemagne, Danemark, Australie, au Ghana. Nous avons prié avec vous à Singapour, à Hong Kong, en Inde et au Sri Lanka. Nous avons été élevés et édifiés par vous au Brésil, au Chili, à Porto Rico, au Canada et aux États-Unis. Nous nous réjouissons de savoir que vous allez faisant du bien comme le Sauveur. Vous accomplissez un travail formidable, mais nous nous sentons poussés à dire qu'il y a plus à faire. Nous avons recherché l'inspiration du Seigneur pour savoir comment aider la prêtrise à édifier le royaume de Dieu sur la terre. Il est temps que la Société de secours remplisse son objectif comme jamais auparavant. Pour aller de l'avant et accomplir ce que le Seigneur désire, nous devons comprendre clairement l'objectif de la Société de secours. Je vais commencer par rappeler un peu l'histoire de la Société de secours pour expliquer la raison de son établissement. Je vais ensuite parler de trois responsabilités communes à toutes les sœurs de la Société de secours. Pour terminer, j'expliquerai comment le Seigneur veut que nous accomplissions la mission divine que nous avons reçue, au niveau individuel et au niveau de l'organisation. Il n'est pas possible de comprendre la raison d'être d'une organisation pour les femmes dans l'Église sans comprendre le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Connaissant les calamités qui allaient se produire dans ces derniers jours, le Seigneur a parlé à son serviteur, Joseph Smith, fils, et a donné des commandements afin que la foi grandisse sur la terre, afin que son alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de son évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde. L'œuvre du Seigneur est accomplie. Son évangile est prêché à toutes les nations, tribus, langues et peuples, et son alliance éternelle est établie par les ordonnances du Temple. Tout comme Marie et Marthe, à l'époque du Nouveau Testament, ont été invitées par le Sauveur à participer à son œuvre, de même les femmes de notre dispensation ont officiellement la tâche de participer à l'œuvre du Seigneur. Depuis les tout débuts du rétablissement, des femmes ont participé activement à l'édification de l'Église, en soutenant les efforts missionnaires, en contribuant à la construction de temples et en fondant des villes où les saints pouvaient adorer ensemble. L'organisation de la Société de Secours en 1842 a mobilisé la force collective des femmes et leurs tâches spécifiques pour édifier le royaume du Seigneur, tout comme l'organisation des collèges de la prêtrise a donné des responsabilités spécifiques aux hommes. Depuis son organisation, la Société de Secours s'est répandue dans le monde et a été appelée la plus grande et d'une manière absolue la plus merveilleuse organisation de femmes sur la terre. Nous savons par Joseph Smith, le prophète, que la Société de Secours constituait une partie officielle du rétablissement et qu'une organisation semblable existait pour les femmes dans l'Église primitive. Le prophète Joseph a enseigné que la Société de Secours était divinement constituée, divinement autorisée, divinement instituée, divinement ordonnée de Dieu, conformément à la loi du ciel, pour aider le Seigneur à réaliser la vie éternelle de l'homme. Par la Société de Secours, les femmes ont dans l'Église un rôle officiel, avec de grandes responsabilités, notamment le service dans le temple et l'enseignement de l'Évangile. De plus, la Société de Secours a pour but d'aider les femmes à planter et faire grandir le témoignage de Jésus-Christ et de son Évangile, à fortifier la famille et le foyer, et à remplir tous leurs devoirs de famille. La Société de Secours a la responsabilité de veiller aux besoins des pauvres, des malades et des nécessiteux. Mais Joseph F. Smith a dit que sa plus grande responsabilité est de veiller au bien-être spirituel et au salut de toutes les sœurs de l'Église. Pour résumer, l'objectif de la Société de Secours, telle qu'elle a été établie par le Seigneur, est d'organiser, d'instruire et d'inspirer les filles de Dieu pour les préparer aux bénédictions de la vie éternelle. Je vais le redire, l'objectif de la Société de Secours, telle qu'elle a été établie par le Seigneur, est d'organiser, d'instruire et d'inspirer les filles de Dieu pour les préparer aux bénédictions de la vie éternelle. Pour accomplir l'objectif de la Société de Secours, le Seigneur a commandé à chaque sœur de la Société de Secours et à l'organisation dans son ensemble de grandir en foi et en droiture personnelle, 2, de fortifier les familles, et 3, de servir le Seigneur et ses enfants. Chacune de ces responsabilités soutient et renforce les deux autres. Quand nous grandissons en foi, notre famille est fortifiée. Quand nous servons le Seigneur et ses enfants, notre foi et notre capacité d'agir avec droiture grandissent aussi. Les trois responsabilités sont inséparablement liées. Commençons par la première responsabilité. Pour jouer notre rôle dans le plan du Seigneur, nous devons grandir en foi et en droiture personnelle. Être membre de l'Église requiert de la foi, que nous nourrissons tout au long de notre vie avec grande diligence, patience et longanimité. Dans le patrimoine que nous partageons, nous avons des exemples remarquables de foi de femmes des débuts de l'Église. Les pionnières des premiers temps ont été chassées de chez elles et persécutées à cause de leur foi. D'autres ont survécu à des incendies, des inondations. Elles ont traversé des océans et parcouru des milliers de kilomètres à pied, dans la poussière, la maladie, mourant presque de faim, pour participer à l'édification du royaume du Seigneur sur la terre. Beaucoup ont enterré mari, femme, enfants, parents, frères, sœurs. Pourquoi ont-elles fait cela? Parce que le feu de leur foi brûlait en leur âme. Ces femmes remarquables ne recherchaient pas de beaux vêtements, des plaisirs, des grandes maisons ou plus de biens matériels. Comme vous, elles avaient la conviction et le témoignage que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ était vrai et que le Seigneur avait besoin qu'elles remplissent leur rôle dans l'établissement de son royaume sur la terre. Leur quête de droiture personnelle était un effort quotidien pour ressembler davantage au Sauveur par le repentir, l'étude des Écritures, la prière, l'obéissance aux commandements et la recherche de tout ce qui est vertueux ou aimable, ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Notre deuxième responsabilité est de fortifier les familles. Partout dans le monde, les familles sont attaquées et affaiblies par des pratiques corrompues et des enseignements faux. C'est pourquoi, que nous soyons mariés ou seuls, jeunes ou vieilles, nous avons le devoir de défendre et de pratiquer les vertus énoncées dans la Déclaration au monde sur la famille. La première présidence a recommandé, aussi louables et bonnes que soient d'autres demandes ou activités, elles ne doivent pas remplacer les devoirs confiés par Dieu dont seuls les parents et les familles peuvent s'acquitter convenablement. Les enfants qui naissent maintenant grandissent dans un monde de plus en plus pécheur. Nos foyers doivent être un refuge contre les rencontres quotidiennes qu'ils font avec le mal. La société de secours doit être organisée et mobilisée pour fortifier les familles. Je l'ai appris il y a des années quand je venais de me marier. Mes parents, qui habitaient près de chez moi, ont annoncé qu'ils allaient partir dans une autre partie du monde. Je m'étais toujours reposée sur l'exemple attentionné, sage et encourageant de ma mère. Et à présent, elle allait partir pour longtemps. C'était avant les courriels, les télécopieurs, les téléphones portables, les webcams et le courrier postal était notoirement lent. La veille de son départ, je pleurais. Je lui ai demandé qui va être ma mère? Elle a bien réfléchi et par l'esprit et le pouvoir de la révélation qui vient aux femmes comme elle, elle m'a dit, si je ne reviens jamais, si tu ne me revois pas, si je ne peux plus t'enseigner autre chose, attache-toi à la société de secours. La société de secours sera ta mère. Ma mère savait que si j'étais malade, les sœurs s'occuperaient de moi et que quand j'aurais mes enfants, elles m'aideraient. Mais le plus grand espoir de ma mère était que les sœurs de la société de secours seraient pour moi des dirigeantes puissantes et spirituelles. J'ai commencé à ce moment-là à beaucoup apprendre de femmes d'envergure et de foi. Trois femmes ont eu l'appel de présidente de la société de secours dans mes paroisses pendant les années d'absence de mes parents. Alta Chamberlain m'a demandé d'enseigner la gestion du temps et l'organisation familiale, peut-être parce qu'elle a vu que j'avais besoin de m'améliorer dans ces domaines. Jean Horn m'a enseigné à faire ma première étude personnelle sérieuse du Livre de Mormon. Norma Healy m'a donné mes premières tâches à la conservenerie et m'a beaucoup appris sur le service. Ces femmes formidables avaient compris l'objectif de la société de secours. La troisième responsabilité de toutes les femmes de l'Église est de servir le Seigneur et ses enfants. Je trouve intéressant que durant les années d'absence de ma mère, j'ai servi comme présidente de la primaire, puis comme présidente des jeunes filles de notre paroisse. Je faisais partie du conseil de paroisse qui travaillait sous la direction de l'épiscopat. Boyd K. Packer nous a enseigné que tout comme le service de nombreux frères à la prêtrise d'Aaron fortifie la prêtrise supérieure, de même, notre service aux jeunes filles à la primaire sera une bénédiction pour la société de secours. Quand nous servons dans une autre auxiliaire, nous ne sommes pas relevés de nos liens avec les sœurs de la société de secours. Du fait que nous n'entrons pas à la société de secours et n'en sortons pas, nous sommes toujours liés à l'objectif et aux responsabilités de la société de secours. Et nous avons la bénédiction d'avoir toutes les occasions d'être des exemples et des bergers remplis de foi pour les enfants de notre Père. À la société de secours, il y a certaines des occasions de service les plus remarquables sur Terre qui soient disponibles pour toutes les sœurs. Au cours de mes voyages de par le monde, j'ai vu que des milliers et des milliers d'entre vous, actuellement sans mari et sans enfants, sont un réservoir incroyable de foi, de talent et de dévouement. Personne n'est mieux placé que vous pour travailler dans les temples, faire une mission, instruire la génération montante et aider les opprimés. La société de secours a besoin de vous. J'ai aussi été émerveillée par votre jeunesse et votre énergie, vous qui arrivez juste à la société de secours après le programme des jeunes filles. J'ai vu à quel point votre cœur aspire à faire le bien dans le monde. J'ai souvent imaginé ce qui pourrait arriver dans l'œuvre d'histoire familiale, par exemple, si vous transmettiez vos compétences techniques à des sœurs plus âgées comme moi. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de gaspiller votre jeunesse et votre énergie en vous demandant de regarder des femmes plus âgées et plus expérimentées s'occuper de la planification, de l'organisation et du travail de la société de secours. Nous pouvons accomplir l'œuvre du Seigneur à sa manière, en recherchant, recevant et appliquant la révélation personnelle. Sans révélation personnelle, nous ne pouvons pas réussir. Si nous suivons la révélation personnelle, nous ne pouvons pas échouer. Le prophète Néphi nous a dit du Saint-Esprit, « Il vous montrera tout ce que vous devez faire ». Il a été prophétisé que dans les derniers jours, le Seigneur déverserait son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Cela se produira si nous prenons le temps d'être suffisamment calmes et silencieux pour entendre la voix de l'Esprit. Neil A. Maxwell nous a enseigné que recevoir la révélation pour notre appel et notre vie personnelle exige un grand effort mental de notre part. Il a ajouté, la révélation ne s'obtient pas en appuyant sur un bouton, mais en repoussant nos limites. Souvent, avec l'aide du jeûne, de l'étude des Écritures et de la méditation personnelle, surtout, la révélation exige de nous un niveau de droiture personnelle suffisant, de sorte que des justes reçoivent parfois des révélations sans les avoir demandées. Spencer W. Kimball a dit il y a un certain nombre d'années, « Il y a une puissance dans cette organisation qui n'a pas encore été pleinement utilisée pour fortifier les foyers de Sion et pour édifier le royaume de Dieu, et qui ne le sera pas tant que les sœurs et la prêtrise n'auront pas la vision de la société de secours. » La société de secours a été établie par le Seigneur pour organiser, instruire et inspirer ses filles à se préparer aux bénédictions de la vie éternelle. Notre but est de soutenir les femmes de l'Église dans leurs responsabilités individuelles, en veillant à ce que toutes les réunions, leçons et activités que nous préparons les aident à accroître leur foi et leur droiture personnelle, à fortifier leur famille et à servir le Seigneur et ses enfants. Le seul moyen d'accomplir cela est de rechercher, recevoir et appliquer la révélation personnelle. La véritable force de cette organisation mondiale de sœurs repose en chaque femme. Il se peut que nous nous considérions comme faibles et simples, mais nous partageons toutes un patrimoine noble et nous pouvons acquérir une foi égale à celle des femmes remarquables et fidèles qui nous ont précédées. Nous avons un rôle vital à jouer dans l'édification du royaume de Dieu et la préparation à la venue du Seigneur. En fait, le Seigneur ne peut pas accomplir son œuvre sans l'aide de ses filles. C'est pour cela que le Seigneur attend de nous que nous accroissions notre offrande. Il attend de nous que nous accomplissions l'objectif de la société de secours comme jamais auparavant. Je suis reconnaissante de témoigner de la véracité de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et qu'il y a un prophète vivant qui dirige l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh. My heart is full of joy and gratitude.
Rempli de joie et de reconnaissance en voyant cette assemblée extraordinaire de femmes du monde entier. C'est un honneur de faire partie de cette grande organisation de sœurs unies dans leur désir de fortifier leur foi au Seigneur Jésus-Christ et d'édifier son royaume. Je prie pour être guidée par l'Esprit tandis que je vous parle du sujet très sacré du culte du Temple. Les temples sont les endroits les plus sacrés de la terre. En faisant des alliances sacrées avec Dieu au temple, les membres de l'Église digne reçoivent les plus grandes bénédictions auxquelles on puisse aspirer. Nous permettons également à nos ancêtres qui sont morts, sans recevoir les ordonnances nécessaires du salut, d'obtenir les mêmes bénédictions. Je vais parler de l'importance de la construction des temples, de la raison pour laquelle les ordonnances accomplies dans les temples sont essentielles à notre salut, et de la manière de se préparer pour entrer au temple. Je suis très impressionnée par les sacrifices que beaucoup de membres font pour se rendre au temple. Je vais vous donner un exemple. En 1976, quand nous vivions au Costa Rica, le président de mission a demandé à mon mari de participer à l'organisation de la première excursion de la mission au temple. La mission d'Amérique centrale comprenait le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua et le Honduras. Le temple le plus proche était alors celui de Mesa, en Arizona. Il nous faudrait voyager 5 jours dans les 2 sens et travailler 6 frontières. Pour la plupart des participants, cela représentait un grand sacrifice financier. Ils ont dû vendre leur téléviseur, leur vélo, leur patin, tout ce qu'ils pouvaient vendre. Nous avons voyagé jour et nuit dans deux bus qui étaient loin d'être confortables. Certains membres avaient utilisé tout leur argent pour payer le bus et n'avaient pris que des biscottes et de la margarine pour se nourrir pendant le voyage. Pourquoi les membres de l'Église font-ils de si bon gré et avec tant de joie de si grands sacrifices pour aller au temple? Je n'ai jamais oublié le grand déversement de l'esprit qu'il y a eu pendant les 3 jours que nous avons passé au temple de Mesa. J'ai été profondément touchée de voir les membres des familles se prendre dans les bras, le visage baigné de larmes, après avoir été scellés pour l'éternité. 24 ans plus tard, le temple de San José au Costa Rica a été consacré. À la session à laquelle j'ai assisté, il y avait de nombreuses familles qui avaient fait partie de cette première excursion au temple. Ces personnes avaient attendu fidèlement et étaient restées dignes de ce moment sacré. Maintenant, elles peuvent toutes se rendre au temple plus souvent, car un temple a été récemment consacré au Panama et qu'un temple au Honduras a été annoncé. Le Seigneur a toujours commandé à son peuple de construire des temples. Il a dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le tabernacle portable qu'Israël a construit a servi de lieu central du culte pendant son pèlerinage jusqu'à la terre promise. Son modèle et sa structure ont été révélés par le Seigneur à Moïse. Ce devait être la sainte maison du Seigneur. Plus tard, le roi Salomon a construit le temple à Jérusalem avec les meilleurs matériaux de construction disponibles. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur considérait le temple comme sacré et il a enseigné qu'il fallait le respecter. Les Néphites ont aussi construit des temples au Seigneur en Amérique. Ils étaient assemblés autour du temple lorsque le Christ leur est apparu après sa résurrection. Peu après le rétablissement de l'Église dans cette dispensation, le Seigneur a commandé aux saints de lui construire un temple. Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Les saints ont donc construit le temple de Kirtland au prix de sacrifices considérables. Dans ce temple, d'importantes clés de la prêtrise ont été rétablies et le Sauveur lui-même est apparu. À présent, il y a 128 temples en fonctionnement dans le monde entier, et de nombreuses autres sont en construction. Nous avons reçu l'instruction de construire des temples afin que les ordonnances sacrées soient accomplies pour les vivants et les morts. Ces ordonnances sont les ordonnances préparatoires, la dotation, le mariage, le scellement, le baptême pour les morts et l'ordination. Les ordonnances préparatoires nous donnent des bénédictions immédiates et futures. La dotation comprend des alliances sacrées. On y reçoit un enseignement du pouvoir d'en haut et la promesse de bénédiction liée à notre fidélité aux alliances que nous contractons. Brigham Young a défini la dotation comme suit. Votre dotation consiste à recevoir dans la maison du Seigneur toutes les ordonnances qui vous seront nécessaires lorsque vous aurez quitté cette vie pour vous permettre de rentrer dans la présence du Père et d'acquérir votre exaltation éternelle. Les ordonnances de scellement, par exemple le mariage au temple, lient les membres de la famille éternellement. Les alliances que nous contractons en relation avec les ordonnances que nous recevons au temple deviennent nos références pour être admis dans la présence de Dieu. Ces alliances nous élèvent au-delà des limites de notre pouvoir et de notre compréhension personnelle. Nous faisons des alliances pour montrer notre dévouement à édifier le royaume. Nous devenons le peuple de l'Alliance lorsque nous faisons alliance avec Dieu. Toutes les bénédictions promises sont nôtres si nous sommes fidèles à ces alliances. Le temple est une maison de connaissance. La plus grande partie de l'enseignement dispensé dans le temple est symbolique et donnée par l'Esprit. Cela signifie que nous sommes instruits d'en haut. Les alliances et les ordonnances du temple sont un symbole profond du Christ et de son expiation. Nous recevons tous le même enseignement, mais notre compréhension de la signification des ordonnances et des alliances augmente si nous retournons souvent au temple avec une attitude de recherche de connaissances et de méditation au sujet des vérités éternelles qui y sont enseignées. Le culte du temple permet de servir les morts en accomplissant les ordonnances en leur faveur par procuration. Tout le monde peut faire des recherches généalogiques en dehors du temple, mais les ordonnances sacrées dont nos ancêtres décédés ont besoin pour leur exaltation ne peuvent être accomplies que dans le temple. Le temple est la maison du Seigneur. Il fixe les conditions de son utilisation, les ordonnances qui doivent être accomplies et les règles qui nous permettent d'être dignes d'entrer au temple et de participer au culte. Le Seigneur a dit à Moïse, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dans les psaumes, nous lisons, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Sa maison est sainte, et rien d'impur ne peut y entrer. Le Seigneur a donné la responsabilité à l'évêque et au président de pieu de juger de la dignité des personnes qui veulent recevoir une recommandation pour entrer dans sa sainte maison. Nous devons être complètement honnêtes avec notre évêque et notre président de pieu quand ils ont entretien avec nous avant de nous remettre une recommandation à l'usage du temple. Le don que nous apportons à l'autel est un cœur pur et un esprit contrit. La dignité personnelle est une condition essentielle pour profiter des bénédictions du temple. Nous nous préparons en obéissant aux commandements et en cherchant à faire la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au temple, commencez à vous préparer maintenant pour être prêt et digne lorsque l'occasion se présentera. Lorsque nous allons au temple, nous nous débarrassons des pensées et des sentiments qui ne sont pas en harmonie avec les expériences sacrées du temple. Nous avons également une tenue pudique, convenable et digne. La tenue et la présentation que nous avons pour cette occasion sacrée sont des marques de recueillement et de respect envers le Seigneur et sa sainte maison. Une fois dans le temple, nous mettons des vêtements blancs qui symbolisent la propreté et la pureté. Nous sommes alors prêts à participer au culte du temple dans le calme et le recueillement. Cette bénédiction éternelle est accessible à toutes les personnes qui sont dignes de la recevoir. Que peuvent faire les femmes de l'Église pour obtenir les bénédictions du Temple? Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur invite toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu les bénédictions du Temple à faire tout ce qui est nécessaire pour les recevoir. Il invite les personnes qui ont déjà reçu ces bénédictions à retourner au Temple aussi souvent que possible pour revivre cette expérience et élargir leur vision et leur compréhension de son plan éternel. Soyons dignes d'avoir une recommandation à l'usage du Temple en cours de validité. Allons au Temple pour sceller éternellement notre famille. Retournons-y aussi souvent que notre situation le permet. Permettons à notre famille décédée de recevoir les ordonnances de l'exaltation. Faisons le nécessaire pour bénéficier de la force spirituelle et de la révélation que nous recevons en allant au Temple régulièrement. Soyons fidèles. Contractons et respectons les alliances du Temple pour recevoir toutes les bénédictions de l'expiation. Je témoigne que le Temple est un endroit sacré. C'est une source de pouvoir et de force spirituelle. C'est un lieu de révélation. C'est la maison du Seigneur. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Mes chères sœurs, comme nous sommes bénis, non seulement nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mais nous sommes aussi membres de la Société de secours, l'organisation du Seigneur pour les femmes. La Société de secours est la preuve de l'amour de Dieu pour ses filles. N'êtes-vous pas ému en vous souvenant de l'histoire de la Société de secours et de ses débuts passionnants? Le 17 mars 1842, lors de la première réunion de la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a déclaré que l'organisation de l'Église du Christ n'a pas été parfaite tant que les femmes n'ont pas été organisées. Il a alors organisé les sœurs sous l'égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise. Le petit groupe de femmes différentes les unes des autres, assemblées pour cette première réunion de la Société de secours, étaient des femmes dévouées, comme les membres de la Société de secours d'aujourd'hui. Il y avait des jeunes femmes et des femmes âgées. Certaines avaient fait des études, d'autres pas. Il y avait des femmes mariées, des mères et des femmes seules. Certaines étaient riches et d'autres étaient très pauvres. Elles avaient toutes de l'amour les unes pour les autres, de l'amour pour le Seigneur et le désir de servir. En nous rappelant que les sœurs de la Société de secours ont fait dans le passé, nous pouvons mieux comprendre notre objectif et être guidés aujourd'hui. Lors de la première réunion de la Société de secours, Joseph Smith a demandé aux sœurs d'aider les frères à rechercher les besoins des pauvres, à trouver des objectifs charitables et à répondre à ces besoins. Il a aussi exhorté les sœurs à agir selon les bons sentiments que Dieu avait mis dans leur cœur. Les sœurs ont pris cette tâche à cœur et sont devenues une société consacrée au service des pauvres et des nécessiteux. Emma Smith a dit, « Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Si un bateau est pris dans les rapides avec une multitude de mormons à bord, ce sera pour nous comme un appel au secours. Nous aurons des occasions extraordinaires et des appels pressants. » Dans les premiers temps de l'Église, les sœurs ont porté secours en allant de maison en maison. Faisant ce qu'on appelle maintenant les visites d'enseignement, elles se sont occupées de tous, prenant soin des besoins des gens et s'assurant qu'ils avaient de la nourriture, des vêtements, un abri, et apportant leur aide quand elle était nécessaire. Si une sœur avait quelque chose à donner, elle le donnait aux sœurs visiteuses. Si elle était dans le besoin, les sœurs l'aidaient. Consacrons-nous à la Société de secours, comme Bodka Parker l'a demandé. Le service à la Société de secours grandit et sanctifie chaque sœur individuellement. Quand vous vous consacrez à la Société de secours, l'organisez, la faites fonctionner et y participez,
Vous soutenez la cause qui sera une bénédiction pour toutes les femmes qui sont sous son influence. Emma a décrit un bateau pris dans des rapides et des gens ayant besoin d'aide. Mais nous pouvons appliquer cela à notre époque. Quand nous voyons, par exemple, un voisin malade, un enfant qui a besoin d'instruction, un adolescent en manque d'amis ou une famille qui n'a plus de revenus et qui a besoin d'aide pour reprendre pied. Nous entendons parler de calamités, de tempêtes ou de tragédies personnelles dans la vie de nos sœurs de partout. Il n'est pas difficile de trouver des choses à faire ou des causes à soutenir. Rappelons-nous que le plus souvent, le besoin d'aide se trouve dans notre propre foyer, notre quartier, notre commune. Une parole gentille d'encouragement, un mot de remerciement, un appel téléphonique, un sourire aimant, une aide, et un rappel que Dieu nous aime est souvent ce qui est le plus nécessaire. Nous pouvons élever autrui et être une bénédiction de tant de manières. La société de secours n'est pas simplement une classe le dimanche. Ce n'est pas simplement un endroit où aller si nous n'enseignons pas à la primaire ou aux jeunes filles. C'est l'organisation du Seigneur pour les femmes. Pouvoir participer à la société de secours fait partie du patrimoine glorieux et de la bénédiction des femmes de l'Église du Seigneur. Lors des premières réunions de la société de secours, Joseph Smith a dit aux sœurs de s'enseigner mutuellement l'Évangile de Jésus-Christ. Il a dit, « La société n'a pas pour seul but de secourir les pauvres, mais aussi de sauver des âmes. » Il leur a dit aussi, « Je tourne maintenant la clé en votre faveur au nom de Dieu, et cette société se réjouira. La connaissance et l'intelligence se déverseront à partir de maintenant. » J'aime cette déclaration. Elle me rappelle que je dois me réjouir des bénédictions que Dieu a pour les femmes de l'Église. Les femmes de la société de secours ont toujours cherché à apprendre et à progresser. Nous savons que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. En 1830, dans une révélation donnée par l'intermédiaire du prophète Joseph à sa femme, Emma, le Seigneur a déclaré qu'elle devait expliquer les Écritures et exhorter l'Église, selon que cela lui serait donné par l'Esprit. Cette tâche n'a pas été donnée seulement à Emma, mais Joseph a expliqué que toutes les sœurs devaient rechercher ce don. Des femmes ont enseigné l'Évangile de Jésus-Christ et ont suivi le Sauveur en parole et en action. Les sœurs se nourrissaient mutuellement de la bonne parole de Dieu. Certaines femmes disent qu'il est effrayant d'instruire une classe ou de parler devant un groupe. Je peux vous assurer que je sais par expérience que cela peut être plutôt intimidant. Souvenons-nous de ce qu'Elisa Ersno a dit un jour à sa nièce, qui avait été appelée à parler devant un groupe. Quand elle s'est levée et a essayé de parler, dominée par la peur, elle n'a pas pu dire un mot. Elle s'est finalement rassise. Elisa lui a dit gentiment et doucement, ce n'est pas grave, mais quand on te redemandera de parler, essaie d'avoir quelque chose à dire. Nous aurons quelque chose à dire si nous nous préparons comme le Seigneur l'a demandé. Il dit de prêcher son évangile par l'Esprit et que celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Si nous nous préparons avec ferveur en utilisant les Écritures et la documentation officielle de l'Église et en demandant de l'aide au Seigneur, il nous donnera le don ineffable du Saint-Esprit. Et nous saurons quoi dire pour que tous soient édifiés. Lors d'une réunion formidable de la Société de secours, Elisa Ersno a écrit dans le proverbe que presque toutes les personnes présentes se sont levées et ont parlé, et que l'Esprit du Seigneur, comme un flot purifiant, a rafraîchi tous les cœurs. Nous espérons que nos sœurs aujourd'hui se sentent nourries, édifiées et élevées chaque fois qu'elles assistent à une leçon du dimanche, font des visites d'enseignement, participent à une activité ou rendent service. Plus que jamais, nous avons besoin que les femmes agissent et soient fortes. Nous avons besoin de femmes qui déclarent la vérité avec force, foi et audace. Nous avons besoin de femmes pour montrer l'exemple de la droiture. Nous avons besoin de femmes qui œuvrent avec zèle à une bonne cause. Nous devons mener une vie qui témoigne que nous aimons notre Père Céleste et le Sauveur Jésus-Christ et que nous ferons ce qu'ils nous ont demandé de faire. Nous devons sauver tout ce qui est le plus raffiné tout au fond de nous-mêmes, afin qu'en tant que filles de Dieu, nous puissions faire notre part pour édifier le royaume de Dieu. Nous aurons de l'aide pour le faire. Joseph a déclaré, « Si vous vivez à la hauteur de ce à quoi vous avez droit, on ne pourra empêcher les anges d'être avec vous. » Portons les fardeaux les unes des autres. Pleurons avec ceux qui pleurent. Consolons ceux qui ont besoin de consolation et respectons ainsi les alliances que nous avons contractées. Nous sommes extrêmement bénis. Le Sauveur est à la tête de l'Église. Nous sommes dirigés par des prophètes, voyants et révélateurs vivants. Nous avons les Écritures à lire, à étudier et où trouver les réponses pour notre vie quotidienne. Nous avons des temples saints partout dans le monde où nous pouvons accomplir les ordonnances nécessaires pour retourner auprès de notre Père Céleste. Et nous pouvons nous aider mutuellement. Quand je voyage en de nombreux endroits du monde, je vois l'image de Dieu gravée sur votre visage. On me rapporte vos bonnes actions et votre dévouement remarquable. Je vois la lumière du Christ se refléter dans vos yeux. Je sais que, comme Emma l'a dit, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Nous pouvons être une armée juste de femmes armées d'amour, de compassion, de gentillesse, de service et de foi. Nous pouvons être une immense force bénéfique dans ce monde. Alors, nous serons ce que président Packer a décrit. La société de secours pourrait être comparée à un refuge, un lieu de sécurité et de protection. Vous y serez en sécurité. Elle encercle chaque sœur comme un mur protecteur. Nous devons avoir ce lieu de sécurité et de protection. N'êtes-vous pas heureuse d'appartenir à la société de secours? En nous souvenant de ce que ces nobles femmes ont fait, nous serons guidées aujourd'hui et à l'avenir. Je témoigne que Dieu, notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ vivent et nous aiment. Je témoigne que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu. Je témoigne que si nous respectons nos alliances, nous serons bénis sans mesure. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
beautiful.
C'était magnifique, édifiant. Merci. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont participé avec nous à cette réunion. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après le discours de Frère Uchtdorf, le chœur terminera la réunion en chantant « Hosanna au grand roi ». Jana Pestepos du Bureau général de la Société de secours fera ensuite la prière de clôture. Frère Uchtdorf.
My dear sisters,
mes chères sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous. Je suis reconnaissant de parler aux femmes de l'Église rassemblées dans toutes les parties du monde. Ce soir, aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés par la présence du président Monson et du président Haring. Le chœur, quel chœur merveilleux, a touché nos cœurs. Nous avons été inspirés par les magnifiques messages des sœurs Thompson, Allred et Beck. Quelle merveilleuse présidence d'une organisation formidable de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Depuis que j'ai appris que j'allais être avec vous aujourd'hui, j'ai pensé aux nombreuses femmes qui ont modelé ma vie. D'abord, ma merveilleuse femme, Henriette, ma mère, ma belle-mère, ma sœur, ma bru, ma fille, ma belle-fille et mes nombreux amis. Toute ma vie, j'étais entouré de femmes qui m'ont inspiré, instruit et encouragé. Je suis ce que je suis aujourd'hui grandement grâce à ces femmes remarquables. Chaque fois que je suis en réunion avec les sœurs de l'Église, je ressens que je suis au milieu d'âmes remarquables, elles aussi. Je suis reconnaissant d'être ici, reconnaissant de vos talents, de votre compassion et de votre service. Plus que tout, je suis reconnaissant de ce que vous êtes, des filles chéries de notre Père Céleste à la valeur infinie. Je suis sûr que ce n'est pas surprenant pour vous, mais les différences entre les hommes et les femmes peuvent souvent être frappantes, physiquement et mentalement, autant qu'émotionnellement. L'un des meilleurs moyens qui me viennent à l'esprit pour illustrer cela est la manière dont ma femme et moi préparons un repas. Quand Harriet prépare un repas, c'est un chef-d'œuvre. Elle connaît des recettes du monde entier et elle prépare fréquemment des plats originaires des pays que nous avons visités. La présentation des aliments est stupéfiante. En fait, les plats sont souvent si beaux que cela semble un crime de les manger. C'est une fête tant pour la vue que pour le goût. Mais aussi parfait que tout soit pour la vue et pour le goût, Harriet demande toujours qu'on lui excuse quelque chose qu'elle pense imparfait. Elle dira, j'ai peur d'avoir mis un peu trop de gingembre ou la prochaine fois, je pense qu'il vaudrait mieux mettre un peu plus de curry ou une feuille de laurier de plus. Voyez maintenant comment moi, je cuisine. Pour ce discours, j'ai demandé à Harriet quel était le plat que je cuisine le mieux. Elle a répondu, les œufs au plat. Non retourné. Mais ce n'est pas tout. J'ai une spécialité appelée Knusperchen. Le nom ressemble peut-être à quelque chose de délicieux, une délicatesse trouvée dans un restaurant chic. Je vais vous dire comment on le prépare. On coupe du pain français en petites tranches et on les grille deux fois. C'est ça la recette. Donc, entre les œufs au plat, même s'ils sont un peu gras, et les Knusperchen, même s'ils sont brûlés, quand je cuisine, je me sens assez héroïque. Peut-être ce contraste entre ma femme et moi est-il un tout petit peu exagéré, mais cela illustre quelque chose qui peut aller au-delà de la préparation des repas. Il me semble que nos merveilleuses sœurs sous-estiment parfois leurs compétences. Elles se concentrent sur ce qui manque ou est imparfait, plutôt que sur ce qu'elles accomplissent ou sur ce qu'elles sont en réalité. Vous reconnaissez peut-être cette particularité chez quelqu'un que vous connaissez très bien. La bonne nouvelle est que cela souligne une qualité admirable, le désir inné de plaire au Seigneur au mieux de nos capacités. Malheureusement, cela peut aussi entraîner la frustration, l'épuisement et la tristesse. Aujourd'hui, je veux m'adresser à celles qui sont déjà senties incompétentes, découragées ou fatiguées. En résumé, je veux vous parler à toutes. Je prie aussi pour que le Saint-Esprit amplifie mes paroles et leur donne plus de signification, de portée et d'inspiration. Nous savons qu'il peut parfois être difficile de garder la tête hors de l'eau. En fait, dans notre monde de changements, de difficultés, de listes de contrôles, il peut sembler parfois presque impossible d'éviter de se sentir submergé par la souffrance et le chagrin. Je ne veux pas dire que nous pouvons simplement appuyer sur un bouton et annihiler les sentiments négatifs qui nous dépriment. Ce n'est pas un discours de motivation, ni une demande à celles qui sont en train de sombrer dans les sables mouvants d'imaginer qu'elles sont en fait en train de se détendre sur une plage. Je reconnais que dans notre vie à tous, il y a de réels soucis. Je sais qu'il y a ici ce soir des cœurs qui éprouvent un profond chagrin. D'autres sont aux prises avec des craintes qui troublent l'âme. Pour certaines, la solitude est leur épreuve secrète. Ces choses ne sont pas insignifiantes. Mais je voudrais parler de deux principes qui peuvent vous aider à trouver le chemin de la paix, de l'espérance et de la joie, même dans les moments d'épreuve et de détresse. Je veux parler du bonheur de Dieu et de la manière dont chacun de nous peut y goûter malgré les fardeaux qui nous écrasent. Je vais commencer par poser une question. À votre avis, quelle est la plus grande sorte de bonheur possible? Pour moi, la réponse est le bonheur de Dieu. Cela amène à une autre question. Quel est le bonheur de notre Père Céleste? Peut-être est-il impossible d'y répondre, car ses voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous ne connaissons pas la signification de tout, mais nous savons que Dieu aime ses enfants, parce qu'il a dit, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Notre Père Céleste est capable d'accomplir ces deux grands objectifs, l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, parce qu'il est un Dieu de création et un Dieu de compassion. Créer et être compatissant sont deux objectifs qui contribuent au bonheur parfait de notre Père Céleste. Créer et faire montre de compassion sont deux activités dans lesquelles nous, ses enfants d'esprit, pouvons et devons suivre son exemple. L'œuvre de création tout d'abord. Le désir de créer est l'une des aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Quels que soient nos talents, notre formation, nos antécédents, nos compétences, nous avons tous le souhait inhérent de créer quelque chose qui n'existait pas. Tout le monde peut créer. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent, un poste ou de l'influence pour créer quelque chose de valable ou de beau. La création apporte beaucoup de satisfaction et un profond sentiment d'accomplissement. Nous progressons et faisons progresser autrui quand nous prenons la matière inorganisée pour en faire quelque chose de beau. Et je ne parle pas du nettoyage des chambres de vos enfants adolescents. Vous pourriez dire, je ne suis pas créative. Quand je chante, je suis toujours un demi-ton au-dessus ou en dessous de la note. Je ne sais pas tracer une ligne sans règle. Et le pain que je fais ne peut servir que de presse-papier ou de bloc-porte. Si c'est ce que vous ressentez, réfléchissez et souvenez-vous que vous êtes des filles d'esprit de l'être le plus créatif de l'univers. N'est-il pas remarquable de penser que nos esprits ont été façonnés par un Dieu infiniment créatif et éternellement compatissant? Réfléchissez à cela. Votre corps d'esprit est un chef-d'œuvre dont la beauté, le fonctionnement et les capacités défient l'imagination. Mais dans quel but avons-nous été créés? Nous avons été créés dans le but express et avec le potentiel d'avoir une plénitude de joie. Notre droit par la naissance et l'objectif de notre grand voyage sur cette terre est de rechercher et d'éprouver un bonheur éternel. L'une des façons de le trouver est de créer des choses. Si vous êtes mère, vous participez avec Dieu à son œuvre de création, non seulement en donnant un corps physique à vos enfants, mais aussi en les instruisant et en les élevant. Si vous n'êtes pas mère à présent, les talents créatifs que vous cultivez vous prépareront pour ce jour-là, dans cette vie ou dans la suivante. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de talent, mais c'est faux, car nous avons tous des talents et des dons, chacun de nous. Les limites de la créativité vont bien au-delà d'une broderie ou d'une feuille de papier. Elles ne nécessitent pas de pinceau, de stylo, ni de touche de piano. Créer signifie amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas, des jardins colorés, des maisons harmonieuses, des souvenirs familiaux, des rires en cascade. Ce que vous créez n'a pas besoin d'être parfait. Peu importe si les œufs sont un peu gras ou si le pain est brûlé. Ne laissez pas la crainte de l'échec vous décourager. Ne laissez pas les critiques vous paralyser. Qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Si vous vous sentez quand même incapable de créer, commencez petit. Commencez par voir combien de sourires vous pouvez créer. Écrivez une lettre de remerciement. Apprenez une nouvelle compétence. Choisissez un endroit et embellissez-le. Il y a près d'un siècle et demi, Brigham Young s'est adressé aux saints de son époque. Il a dit, « Les saints ont une grande œuvre à accomplir. Progressez, améliorez-vous en tout et embellissez tout ce qui vous entoure. Cultivez la terre, cultivez votre esprit, construisez des villes, décorez vos maisons, faites des jardins, des vergers, des vignes et rendez la terre si plaisante que lorsque vous regarderez vos labeurs, vous puissiez le faire avec plaisir et que des anges puissent se réjouir de venir voir vos beaux endroits. » Entre-temps, cherchez continuellement à orner votre esprit de toutes les grâces de l'Esprit du Christ. Fin de citation. Plus vous faites confiance à l'Esprit et plus vous vous reposez sur lui, plus votre capacité de créer grandit. C'est la possibilité qui vous est donnée dans cette vie et votre destinée dans la vie à venir. Mes sœurs, faites confiance à l'Esprit et reposez-vous sur lui en profitant des occasions normales de votre vie quotidienne pour créer quelque chose de beau et d'utile. Vous améliorez non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi votre monde intérieur. Être compatissant est une autre grande œuvre de notre Père Céleste et c'est une caractéristique fondamentale de notre peuple, de qui nous sommes. Vivant actuellement. Il nous est commandé, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. Les disciples du Christ à toutes les époques se sont distingués par leur compassion. Les gens qui suivent le Sauveur sont disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Lorsque nous allons vers autrui pour être une bénédiction pour lui, nous sommes aussi bénis. Le service et le sacrifice ouvrent les écluses des cieux, nous permettant de recevoir des bénédictions de choix. Il est certain que notre Père céleste bien-aimé se réjouit en voyant des gens prendre soin des plus petits de ses enfants. Lorsque nous élevons quelqu'un, nous nous élevons un peu nous-mêmes. Spencer Kimball a enseigné que plus nous servons notre prochain de la bonne manière, plus notre âme se densifie. Gordon B. Hinckley croyait au pouvoir guérisseur du service. Après la mort de sa femme, il a donné un grand exemple à l'Église par la manière dont il s'est plongé dans le travail et dans le service. Le président Hinckley a dit à une femme qui venait de perdre son ami, son mari, le travail guérira votre chagrin. Rendez service à autrui. Ce sont des paroles profondes. Si nous nous consacrons au service d'autrui, nous découvrons notre propre vie et notre propre bonheur. Lorenzo Snow a dit quelque chose de semblable. Lorsque vous vous sentez un peu morose, regardez autour de vous et trouvez quelqu'un qui est dans une situation pire que la vôtre. Allez le voir pour connaître ses difficultés, puis essayez de les résoudre avec la sagesse que le Seigneur vous a accordée. Et bientôt, votre morosité aura disparu. Vous vous sentirez léger. L'Esprit du Seigneur sera sur vous et tout semblera illuminé. Fin de citation. À notre époque de psychologie à quatre sous, de télévision de bas étage et de manuels pour atteindre le bien-être par soi-même, ce conseil peut paraître à l'opposé de l'intuitif. On nous dit parfois que la solution de nos maux se trouve en nous-mêmes, que nous devons nous faire plaisir, acheter mieux maintenant et payer plus tard, satisfaire nos désirs, même aux dépens de notre entourage. Il est parfois prudent de s'occuper d'abord de nos propres besoins, mais avec le temps, cela ne mène pas à un bonheur durable. Je crois que les femmes de l'Église, quel que soit leur âge et leur situation familiale, comprennent et appliquent au mieux les paroles de James Barry, l'auteur de Peter Pan. Les gens qui apportent le soleil dans la vie d'autrui en profitent aussi. J'ai souvent été témoin d'actes discrets de gentillesse et de compassion de femmes nobles qui donnaient d'elles-mêmes, animées par une charité généreuse. Je suis ému quand j'entends parler de sœurs de l'Église qui se sont précipitées pour aider des gens dans le besoin. Il y a des membres de l'Église, hommes et femmes, qui se demandent comment contribuer au royaume. Parfois, des femmes célibataires, divorcées ou veuves, se demandent s'il y a une place pour elles. Chaque sœur de l'Église a une importance énorme, non seulement pour notre Père céleste, mais aussi pour l'édification du royaume de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Il y a un an, à cette réunion, le président Monson bien-aimé a enseigné qu'il y a des occasions de servir tout autour de vous. Il a ajouté, souvent de petits actes de service sont tout ce qui est nécessaire pour encourager et bénir autrui. Sœurs, regardez autour de vous. Là, à la réunion de Sainte-Seine, il y a une jeune maman avec plusieurs enfants. Proposez-lui de vous asseoir à côté d'elle et de l'aider. Là, près de chez vous, un jeune homme semble découragé. Dites-lui que vous aimez sa compagnie, que vous sentez sa bonté. De véritables paroles d'encouragement ne nécessitent qu'un cœur aimant et attentionné, mais elles peuvent avoir une influence éternelle dans la vie des gens qui vous entourent. Vous, sœurs merveilleuses, montrez de la compassion envers les autres pour des raisons qui dépassent le désir de bénéfice personnel. En cela, vous suivez l'exemple du Sauveur, qui, tout en étant roi, n'a pas cherché à être en vue, ni ne s'est même soucié d'être remarqué. Il ne se souciait pas d'être en compétition. Ses pensées étaient toujours tournées vers autrui. Il a instruit, guéri, conseillé et écouté autrui. Il savait que la grandeur n'a rien à voir avec les signes extérieurs de richesse ou de situation. Il a enseigné et appliqué le point de doctrine suivant. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pour finir, le nombre de prières que nous faisons peut contribuer à notre bonheur, mais le nombre de prières auxquelles nous répondons peut avoir encore plus d'importance. Ouvrons les yeux et voyons les cœurs lourds. Remarquons la solitude et le désespoir. Ressentons les prières silencieuses des personnes qui nous entourent et soyons un instrument dans les mains du Seigneur pour exaucer ces prières. Mes chères sœurs, ma foi est simple. Je crois que si vous respectez fidèlement et diligemment les commandements de Dieu, si vous rapprochez de lui avec foi, espérance et charité, tout concourra à votre bien. Je crois que si vous vous plongez dans l'œuvre de notre Père, si vous créez de la beauté et montrez de la compassion envers les autres, Dieu vous entourera des bras de son amour. Alors, le découragement, le sentiment d'incompétence et la fatigue feront place à une vie pleine de sens, de grâce et d'accomplissement. En tant que fille d'esprit de notre Père Céleste, vous avez le bonheur pour héritage. Vous êtes des filles de choix de notre Père Céleste. Et par les choses que vous créez et votre service compatissant, vous êtes une grande force bénéfique. Vous rendrez le monde meilleur. Relevez la tête. Tenez-vous droite. Dieu vous aime. Nous vous aimons et nous vous admirons. J'en témoigne et je vous laisse ma bénédiction d'apôtre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Father in heaven,
notre cher Père Céleste, avec beaucoup de reconnaissance, nous nous inclinons devant toi ce soir à la fin de cette réunion générale de la Société de secours. Nous sommes tellement reconnaissantes pour les personnes qui se sont adressées à nous, qui nous ont édifiés ce soir. Nous te remercions de la manière dont ils nous ont conseillés, dont ils nous ont transmis ta volonté. Nous te prions, Père, pour que nous puissions nous souvenir de ce dont nous avons entendu, que nous puissions être de meilleures femmes, pleines d'espérance et de force pour continuer. Bénis-nous quand nous quittons ces réunions, en partant des réunions, des bâtiments de réunion pour retourner dans nos foyers. Aide-nous, Père, à pouvoir témoigner sans réserve de ce que l'Esprit nous a témoigné. Nous t'aimons et nous te disons ces choses, le cœur plein de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.